13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère en cette journée enneigée?
Ça va très bien, j'ai eu froid aux pieds mais tout va bien. Bonjour Olivier, bonjour.
Bonjour, pendant cette heure nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables, lumineuses ou même plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Se marier, c'est s'unir pour le meilleur ou pour le pire. Et parfois le pire, malheureusement, c'est le divorce qui est au bout de l'aventure. 128 000 couples mariés ont divorcé en 2016. C'est 4 000 de plus que l'année précédente. Divorcer, c'est accepter la rupture, trouver un nouveau foyer, s'arranger pour la garde des enfants, engager une procédure longue et parfois coûteuse. Et puis, une sacrée tâche, il faut l'annoncer aux enfants.
Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer...
On divorce. Pardon ?
On divorce. Mais qui ça, on ? Oh, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère.
C'est une blague.
Ici, Marina Foïs et Laurent Baffy l'expliquent à enfants dans le film « Papa ou maman ». Mais est-ce qu'un divorce peut se passer sereinement? Peut-on, à défaut d'avoir réussi son mariage, réussir son divorce? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et je ne suis pas sûr d'avoir... J'ai dit Laurent Baffy, mais c'est Laurent Lafitte. Excusez-moi, mais ça c'est ma dyslexie. Hein,
et Marina Foïs, ça c'était exact. 3921 pour nous appeler le standard d'Europe 1 et venir témoigner, venir partager votre expérience de vie sur l'antenne d'Europe 1, Twitter pour nous écrire, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Marie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marie, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Bon, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Vous êtes où là? C'est enneigé chez vous?
Oui, je suis à Paris 13e et oui, il y a quand même pas mal de neige, mais là, ça s'est arrêté. Donc,
ça s'est arrêté, ça s'est calmé. Oui, et alors, j'avais un ami tout à l'heure qui est à une heure d'ici, il fait un grand bleu, donc ça devrait nous arriver là dans peu de temps. Alors vous, Marie, en 2011, vous avez divorcé de votre mari. Depuis combien de temps vous étiez ensemble?
On est ensemble depuis 1998, donc 13 ans, c'est ça. Et en 2011, ben oui, il y a eu une rupture nécessaire.
Et qu'est-ce que vous appelez nécessaire?
J'appelle nécessaire quand il y a beaucoup de silence, quand on ne s'engueule même plus, quand on n'a plus de vie intime non plus. Il y a plusieurs couples qui continuent à vivre quand même à travers ces choses difficiles. Mm-hmm. Mais nous, ça ne nous intéressait pas de continuer à vivre un mensonge. Donc, on a décidé de se séparer, de divorcer assez rapidement d'ailleurs, pour qu'on puisse être plus libre et ne pas vivre dans le mensonge, en fait.
D'accord. Est-ce que votre mariage a été un mariage heureux, tout de même?
Il a été heureux pendant beaucoup d'années.
Ouais.
Et après, en fait, nous, on vivait au Canada.
Ouais.
Et on est revenu vivre sur Paris. Et on s'est toujours demandé si l'appartement un peu petit n'avait pas contribué à l'explosion, pas assez d'espace, disons. Mmh. Voilà.
Alors, c'est tout de même monsieur qui, en 2011, a demandé le divorce. Vous me l'expliquez, il y avait de plus en plus de silence, en tout cas une sorte de malaise, mais dont ni l'un ni l'autre vous ne parliez. Mais c'est lui qui a pris l'initiative. Pardon. Comment est-ce que vous avez réagi? Plutôt bien ou cela vous a surpris?
Ah, ça m'a surpris. J'étais pas... Disons que j'ai pas vraiment... penser que lui en était à ce point-là. J'ai pensé qu'on pouvait encore peut-être résoudre les choses, mais voilà, on est parti en vacances et en revenant de vacances, il y a eu une engueulade assez assez forte.
Celle de plus.
Trop. Mais en fait, lui, il était plus sur les mots et moi, j'étais plus dans le silence. Mm-hmm. Et il m'a dit, ça y est, je pense que je ne peux plus continuer. Il faut qu'on se sépare, il faut qu'on divorce.
Comment est-ce que vous avez pris cette décision? Est-ce que vous l'avez comprise, cette décision? Est-ce que elle vous avait déjà... Enfin, visiblement, elle vous avait traversé l'esprit, mais pas si concrètement que ça, j'ai l'impression.
Oui, c'est exactement ça. Ça m'a traversé l'esprit, mais pas si concrètement. Et après, quand il est arrivé avec cette décision, c'est sûr que ça a été un choc pour moi. Mais après, je l'ai très vite accepté parce que je me suis rendu compte que on n'avait pas d'autre choix. Il fallait
prendre cette décision. Décision qui est difficile à prendre parce que elle ressemble. Et je parle pour pas par expérience personnelle, mais en tout cas par rapport à des amis autour de moi qui vivent cela comme une petite mort, alors que finalement, cette petite mort, c'est tout de suite hein, dans la décision qu'on la ressent. Et puis un an après, bon nombre d'entre eux entretiennent d'excellentes relations et tout va mieux. Vous restez en ligne avec nous, Marie, parce qu'on parlera de vos premiers mois après ce divorce, voir s'ils ont été faciles ou difficiles, et puis si vous avez ensuite appris à vous redécouvrir et quelle a été votre vie après ce divorce. On se retrouve tout de suite.
Europe 1. Un divorce sans trop laisser de plumes. Est-ce que ça s'est passé ainsi pour vous? Vous nous racontez au 3921, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Comment s'est passé votre divorce? Ça vous a fait tout drôle comme Michel Delpech, mais vous vous y êtes fait ou? C'est toujours difficile et il vous est impossible de vous entendre. 3921 pour nous appeler, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Alors moi je peux vous dire que réécouter cette chanson, ça me balance, ça me fournit une certaine émotion parce qu'elle a combien de temps? 30 ans, 35 ans
c'était... Sans doute un petit peu plus, oui.
Même un peu plus.
Oui, les années 70.
Magnifique chanson, en tout cas, de Michel Delpech. Marie, vous êtes toujours là, vous nous expliquez que finalement, après ce mariage heureux, vous aviez vécu une sorte de consentement dans ce mariage, même si c'est votre mari qui vous a proposé, hein, qui a décidé pour vous deux. Lorsque vous êtes sorti du palais de justice, quand même, il vous a surpris, puisqu'il vous a proposé d'aller boire une coupe de champagne. Donc ça donne quand même une tonalité à ce divorce. Vous vous entendez bien tous les deux. On sent que s'il vous propose ça, c'est que vous en avez ensuite discuté, que vous vous êtes tombés d'accord tous les deux.
Ben, en fait, la coupe de champagne, je dois dire, allez, on va prendre un verre, on va boire le champagne. Pour moi, franchement, c'est pas passé, parce que à cette époque-là, je le voyais vraiment pas, je vivais pas ça aussi bien que lui, je dois dire. Donc, je n'y suis pas allée. Mais en fait, lui, dans sa tête, je crois, ce divorce était seulement un pas en avant vers peut-être une réconciliation, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas un divorce comme il y a tant de couples qui se qui sortent du palais de justice en se détestant. Ouais. Nous c'était pas ça. C'était vraiment.
Et au moment où je vous écoute, alors parce que je pensais que voilà vous aviez pris cette proposition plutôt bien, puisque je rappelle qu'on se parle pas avant l'émission, hein, je découvre votre histoire en même temps qu'on se parle. C'est le prendre genre champagne. Enfin, la liberté, si vous n'étiez pas raccord, pour vous, ça a dû carrément vous surprendre.
Oui, ça m'a beaucoup surpris. Et le connaissant, parce que je le connais quand même très bien, c'était pas méchant de sa part non plus. Mm-hmm. C'était plutôt...
Ça avait une tonalité de réconciliation, sans doute, non?
Oui. Genre, cette situation difficile est enfin terminée, on peut passer à autre chose.
Ouais. Alors... Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu.
Oui, et c'était ça dans sa tête.
D'accord. Voilà. Si les premiers mois ont été difficiles hein, pour vous, vous avez ensuite appris à vous redécouvrir chacun, puisque vous vous entendez bien aujourd'hui. De quelle manière vous avez appris à vous redécouvrir?
Alors, déjà, on a une fille ensemble, donc c'est quand même...
Un lien.
Oui, c'est un lien vital qui durera toujours pour l'éternité. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas coupé les ponts. Au revoir à jamais. Mm-hmm. Et vu qu'on a quand même beaucoup de bienveillance envers notre fille, on a décidé aussi de faire les choses intelligemment et de ne pas se détester devant elle ou de se dire des gros mots, des choses comme ça. On a toujours agi vraiment très
intérêt.
Civilement.
Ouais. Et comment s'appelle-t-elle, votre fille?
Elle s'appelle Thaïs.
Thaïs. Elle a réagi comment, en fait, lorsque vous lui avez annoncé? Quel âge avait-elle, en plus?
Elle avait 10 ans.
10 ans. Est-ce qu'elle a réalisé à 10 ans que papa et maman se séparaient?
Oui.
Ouais. Et comment ça s'est passé pour elle?
Ben, ça s'est passé beaucoup moins... C'est moins pire que ce que j'ai pensé.
Oui.
Elle a été... Nous, on l'a toujours élevée dans une certaine... dans une certaine ouverture d'esprit, tout ça. Et qu'on lui a dit, elle a dit, bon... bon, elle a pleuré quelques larmes et tout. On lui a expliqué très doucement ce qui se passait. Et elle, elle a compris, en fait. Elle a dit, bon... ok, je comprends. Du haut de ses 10 ans, elle a été vraiment très, très, très forte. Mmh.
Et finalement, elle, elle a l'air, enfin, en tout cas, ça me donne cette impression que dans ce divorce, cet enfant, elle a contribué à ce que aujourd'hui vous soyez réunis, et en tout cas réunis d'une manière particulière, bien évidemment, puisque vous êtes séparés. Mais en tout cas, elle a servi à consolider un nouveau lien solide, différent, mais solide entre vous. Je voudrais juste vous poser une dernière question. Après ce divorce, qui a rencontré quelqu'un en premier, votre ex-mari ou vous? Et comment vous l'avez vécu?
Eh ben, personne.
À personne.
Parce que,
vous êtes resté pour l'instant célibataire.
Oui.
D'accord.
Oui. Et on a une relation très très forte et très c'est comme si on était mariés mais divorcés. Je sais pas comment vous expliquer. On vit assez proche l'un de l'autre. On se voit presque tous les week-ends. On part en vacances ensemble, tout se passe très très bien, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de place pour quelqu'un d'autre dans notre relation.
Alors donc, vous vivez une sorte d'amour platonique, ça ressemble à... Il y avait quelque chose qui pesait sur votre union, qui était de quel ordre finalement? Parce qu'aujourd'hui, si vous partez en vacances ensemble, si vous entretenez une relation aussi bonne que vous la décrivez, si voilà, votre enfant est au milieu de vous et vous réunit encore plus... qu'est-ce qui vous empêche de revenir ensemble, pour le coup, là? Je vais mettre les pieds dans le plat.
Non, je pense que ce qui a contribué à notre séparation, non, je dirais plus ce qui a contribué à notre divorce, puisqu'on n'est pas vraiment séparés, puisqu'on se voit tout le temps,
ouais.
Je crois que c'est peut-être l'enfermement du mariage, tout simplement.
Oui, voilà. C'est-à-dire comme une chape, là, un truc obligatoire qui fait qu'on se sent prisonnier de quelque chose, mais... finalement, souvent, on ne sait pas de quoi. Moi, je parle souvent, et ça sera la conclusion de notre entretien, je parle souvent avec des personnes séparées, mais qui finalement ne se retrouvent pas du tout dans ce qu'ils avaient fantasmé de la séparation. Vous voyez, cette sorte de liberté, de « voilà, je vais être seul, je vais pouvoir rencontrer d'autres gens ». Et puis finalement, ils se retrouvent seuls parce que souvent, on s'aperçoit que la famille, c'est le socle de notre vie, tout simplement. Merci Marie pour votre appel et votre témoignage sur Europe 1 cet après-midi. Dans quelques instants, nous accueillerons Patrick Estrade. Il est psychologue et notamment, il a écrit aux éditions... Bah, je vous donnerai le nom des éditions tout à l'heure parce que je n'ai pas là, mais il a écrit le livre « Revivre après une séparation ».
Europe 1. Comme Marie, vous avez réussi à conserver de très bons rapports avec votre ex-conjoint. Venez-vous aussi nous raconter votre histoire au 3921. Quelles sont les clés pour réussir son divorce? Est-ce que c'est possible? Dites-le nous aussi sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et c'est aux éditions Alpen que Patrick Estrade a écrit son livre.
A tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Il n'y a plus d'amour, la vie vous a séparé, vous avez décidé de divorcer. Est-ce que ça a été une formalité ou est-ce que ça a été une véritable épreuve? 3921 pour nous appeler et nous raconter, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Patrick Estrade, psychologue et auteur du livre « Revivre après une séparation » aux éditions Alpen. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors, vous avez sans doute écouté le témoignage de Marie qui nous racontait en première partie d'émission que sa première réaction lorsque son mari lui a demandé de divorcer, c'est en fait elle s'est sentie abandonnée. Est-ce que c'est souvent le cas dans un divorce d'avoir un sentiment si fort que l'abandon?
Oui, évidemment, parce que ça renoue à des choses très anciennes de la petite enfance, de la première relation à la maman et au papa, selon le cas, n'est-ce pas? Donc oui, c'est un abandon forcément, parce que on a été en amour et tout d'un coup quelque chose vient redéfinir ce territoire amoureux et le mettre en danger. Mmh. Donc voyez-vous, ce que je remarque, c'est qu'il y a une extraordinaire diversité des couples, en fait, parce que on a aussi entendu le mot enfermement.
Oui.
Et il y a ceux qui ont peur d'entrer dans le couple et qui ont par peur d'être enfermés, et il y a ceux qui ont peur de sortir du couple parce que finalement ils redoutent d'être enfermés dans un autre enfermement, dans un enfermement de liberté, parce que en fait il n'y a rien de plus terrible que la liberté si on regarde bien.
Mm-hmm. Et est-ce que c'est parce qu'on se pose de plus en plus ce type de questions que l'on divorce plus qu'avant aujourd'hui?
C'est difficile de répondre à votre question parce que il y a beaucoup de points qui entrent en ligne de compte par rapport au divorce. Je sais pas moi, le mot par exemple, le mot narcissisme collectif me vient à l'esprit. Je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus narcissique et où le parce que je le vaux bien est pris peut-être au premier sens du terme et où finalement à force de le valoir bien moi-même, eh bien l'autre vaut moins. Voyez-vous, donc il y a quelque chose de l'ordre d'un déséquilibre. Et on se cherche, en fait. On se cherche. Quand on est seul, on n'est pas bien. Quand on est à deux, on n'est pas bien. Tout à l'heure, je parlais de l'enfermement. Je pense qu'il y a une chose que nous ignorons trop souvent. C'est que sans la proximité, je ne peux pas être ému.
Oui.
Oui, l'amour par téléphone, ça ne marche pas trop, quoi. Et sans la distance, je ne peux pas être ému. Et le problème de la majorité des couples, c'est qu'ils travaillent toujours sur la proximité. On est bien ensemble, on fait tout ensemble, on fait tellement de choses ensemble que finalement, on ne se reconnaît plus et on oublie la distance. Or, sans la distance, je peux pas être étonné. Et pour que mon couple fonctionne, il faut que je sois étonné. Il faut que, quand je regarde l'autre à distance, je me dis « Ah oui, ah, elle est là, ah oui, ou selon le cas, il, n'est-ce pas ?» Mais là, en l'occurrence, voilà, on définit l'autre différemment quand on le voit à distance. Donc, distance et proximité sont les deux choses qui me semblent les plus importantes pour qu'un couple puisse réussir sans passer par la case divorce. Mais on peut aussi avoir des séparations.
Oui, et justement, pourquoi un divorce est-il plus compliqué à accepter psychologiquement qu'une séparation ?
Il y a la question du serment quand même. On n'en parle pas beaucoup, vous savez, mais ce serment, le fait que on est des fiancés, on est les Italiens disent fidanzati, les fiancés, c'est-à-dire j'ai foi en toi et tu as foi en moi, et nous avons fait serment de vivre ensemble pour toujours. Mmh. Donc cette chose n'est pas si anodine que ça. Ensuite, il y a la famille. Moi, j'ai remarqué que il a fallu aller jusque presque à la fin de votre entretien avec Marie pour qu'elle dise « Mais j'ai une fille ».
Oui.
Vous voyez, alors là, je me suis dit oui, en effet, c'est parce que moi j'étais étonné en entendant Marie. Hein. Au dernier moment, elle nous dit ah mais finalement on est divorcés, mais on est encore ensemble. Mm-hmm. Alors, ça c'était un scoop pour moi. Je m'y attendais
mais parce
pas.
Parce que souvent en fait il y a d'abord cette histoire qui crée le divorce. Hein, c'est ces dissensions entre l'homme et la femme. Et puis après, on pense à l'enfant qui est au milieu de ça. Et je pense que c'est pour cela que Marie a évoqué l'existence de son enfant en fin de témoignage.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Et on a vu que sa fille a 10 ans.
Oui, mais on a vu combien aussi elle avait d'importance dans leur relation d'aujourd'hui. Parce que vous en connaissez beaucoup, vous, de personnes qui, comme Marie et son ex-mari, entretiennent cette relation aussi forte aujourd'hui, parce que c'était assez exceptionnel.
Non, on a presque l'impression qu'ils ont sacrifié leur divorce pour l'enfant.
Oui, oui, oui.
Vous voyez, c'est... Bon, mais en même temps, elle nous a bien dit au début, hein, il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus de sexualité, il y avait de la distance, et vivre dans le mensonge n'était pas ce qu'il nous fallait. Vous voyez, elle a dit des mots très forts comme ça. Et puis, une chose qui me semble importante et qui revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la distance. On habitait un petit appartement en rentrant du Canada, a-t-elle dit, n'est-ce pas ? Et on n'avait pas assez d'espace. Bien, voyez, cette question d'espace, c'est ça, la distance. Mon identité se définit aussi par l'espace que je peux avoir. Voyez ? Donc, si je n'ai pas d'espace, mon identité est racornie quelque part. J'ai besoin de territoire. Et ils avaient un territoire tellement petit que finalement, ce n'était plus un territoire, c'était un mouchoir de poche.
Et comment éviter les rancœurs et les règlements de compte lors d'un divorce ?
Ah, c'est une belle et grande question.
Oui, alors, elle est vaste, cette question.
Je ne suis pas sûr qu'il failli les éviter, voyez-vous, Olivier, parce qu'on a besoin de faire le deuil, on a besoin de détester l'autre à un moment donné, parce que ça fait mal, parce que c'est un séisme, une séparation, une rupture, n'est-ce pas ? Mmh. Et il faut passer par différents états d'âme qui vont faire que petit à petit, je vais prendre de la distance, je vais mettre les choses un peu plus en perspective et je vais être capable à un moment donné de passer à autre chose.
Le règlement de compte est une étape nécessaire pour vous avant de devenir à du plus calme, du mieux, du constructif.
Alors, règlement de compte,
J'entends par là des explications vives.
Voilà, en tout cas, j'ai besoin de détester l'autre.
Oui.
Parce que règlement de compte, oui, si on a besoin de régler des comptes, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui était, il y avait un vrai abcès qu'il fallait soigner.
Je pense que si l'on divorce, c'est que les comptes n'étaient pas spécialement parfaits. Donc c'est pour cela que je faisais référence à ce passage de règlement de compte entre l'un et l'autre. Parce que je pense que quand on règle ses comptes dans ces cas de divorce, on peut passer à l'étape suivante parce que voilà, on s'est dit les choses les yeux dans les yeux. Patrick Estrade, je rappelle que vous êtes psychologue et auteur de nombreux ouvrages sur le couple. Vous restez bien évidemment avec nous en ligne pour continuer de nous apporter vos éclairages. Dans quelques instants, nous accueillerons Marc, au contraire de Marie. Son divorce a été très difficile et 19 ans après, ça l'est toujours.
Europe 1.
Comment faire pour que son divorce ne se transforme pas en bataille de tranchées ? Ça s'est passé le mieux que vous puissiez l'espérer ou au contraire, le dialogue est rompu avec votre ex-conjoint. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. On se sépare, on sait par cœur. Calogero est une chanson de son album Liberté chérie. Et si c'était mieux comme ça, c'est ce que chante Calogero. Est-ce que votre divorce a-t-il été réussi ? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Je repensais aux paroles de la chanson de Calogero, oui. Mais souvent dans ces divorces, il y en a un qui a pris la décision.
Qui prend parti, et
il y en a toujours un qui est moins d'accord avec l'autre. Nous allons justement en discuter avec Marc, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marc, quel âge avez-vous ?
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Marc ? Bonjour.
J'ai 62 ans.
Oui.
J'appelle d'Aix-en-Provence parce que je suis en déplacement professionnel. Quoi.
D'accord. Alors justement, vous êtes toujours en déplacement professionnel aujourd'hui. Ça a à voir avec votre histoire puisque vous êtes resté 19 ans avec votre première épouse. Et lors d'un déplacement professionnel, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Avec elle, vous avez... Alors ça a été un vrai coup de foudre, hein, en croire la décision que vous avez prise l'un et l'autre, puisque vous avez décidé de vous séparer l'un et l'autre de vos conjoints respectifs. Le problème, c'est que votre femme a été mise au courant avant que vous lui annonciez, en regardant votre téléphone. Est-ce que cela a compliqué votre divorce ? Est-ce que ce divorce, au final, a été houleux à cause de cela ?
Je pense que ça a joué, bien sûr, négativement, puisque... et je comprends d'ailleurs, hein, puisque le ciel lui tombe sur la tête, bien entendu, il y a mensonge.
Pourquoi elle va chercher dans votre téléphone à ce moment-là ? Est-ce qu'elle sent que vous rentrez et que vous êtes ébranlé ? Comment ça s'est passé exactement ? Parce que c'est étonnant.
Non, parce qu'on était déjà un couple, je dirais, qui ne fonctionnait pas. Et puis, on parlait déjà un peu de se séparer, etc. Surtout moi, d'ailleurs.
Ouais.
Même avant cette aventure. Et donc, à un moment donné, il y a un manque de confiance. Bon, ça, c'était aussi une caractéristique de mon ex-femme. Elle n'avait pas confiance en elle, donc elle n'avait pas confiance aux autres, et en particulier à moi. Elle commençait à chercher, à fouiller, pourquoi il veut divorcer, etc. Voilà, mm-hmm. Donc,
La particularité de votre histoire, Marc, c'est que les enfants ont tout de suite sont rentrés dans ce conflit, ont été impliqués dans ce conflit et que tout de suite, ils ont comme pris parti puisqu'ils ont refusé vos appels, vos tentatives de communiquer. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre divorce a brisé votre famille et la relation avec vos enfants. Pourquoi avoir ce sentiment ?
bon, d'abord, c'est pas un sentiment, c'est une réalité.
Oui.
Deuxième chose, c'est pas les enfants qui sont rentrés, c'est elle qui a fait rentrer les enfants.
Mm-hmm.
C'est 3 mois ou 4 mois après la séparation, elle m'a proposé de revenir, de tout pardonner, j'oublie tout, etc., etc. J'ai dit, c'est pas possible, de toute façon, il n'y a plus d'amour depuis longtemps, etc. Forcément, sa réaction a été de dire, si c'est comme ça, je te détruirai. Et donc, elle m'a détruit par deux biais. L'argent, déjà, parce que, bon, ça m'a coûté très cher. Et puis, ben, ça, c'est pas... C'est amis, c'est, mmh. c'est rien. Oui. C'est du matériel. Et elle a joué sur les enfants. Et je pense que les enfants ont été mis... pour protéger leur mère, ils ont pris le parti de leur mère.
Mmh. Et c'est quelque chose qui vous brise encore aujourd'hui, puisque vous parlez de destruction, hein, littéralement, de vos relations avec vos enfants.
Bah, quand vous ne voyez pas votre fils pendant 18 ans et que je n'ai toujours pas vu ma fille après 19 ans,
oui.
Je pense qu'on peut parler de destruction. Oui.
Oui, oui. Je me tourne vers vous, Patrick Estrade. Hein. Je rappelle que vous êtes psychologue et auteur de nombreux ouvrages sur le couple. Lorsqu'on écoute le désespoir de Marc, hein, ne plus voir son fils depuis 17 ans et sa fille depuis 17 ans, on comprend que les enfants ont pris parti dans l'histoire de leurs parents. En tout cas, comme nous l'explique Marc, dès le début, elle a impliqué ses enfants dans cette histoire et on voit le résultat. Comment est-ce évitable dans un divorce de surtout ne pas mettre les enfants au cœur de ces histoires ?
Oui, tout à l'heure, nous parlions de règlement de compte. Et là, on est vraiment là-dedans.
Oui.
Parce que finalement, il y a un désir de vengeance, il y a cet amour. Vous voyez, si on était en psychanalyse, on parlerait de Eros et de Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort. Et les deux ne sont jamais très loin. L'amour, la vie, la mort, la destruction, c'est presque les deux extrêmes d'un même système.
Mm-hmm.
Mais là, j'ai entendu le mot le divorce. À briser la famille, voyez-vous.
Ouais.
Et en fait, oui, j'étais en train de me poser la question, est-ce que dans le cas de Marie, par exemple, où il y a un enfant, est-ce que ça se serait passé comme ça? Parce que je pense qu'un couple avec un enfant, c'est un couple avec un enfant, ou une micro-famille, si vous voulez, mais un couple avec deux ou trois enfants, c'est vraiment une famille.
Mmh.
Et là, il y a des forces en puissance extraordinaires. Et évidemment que l'épouse de Marc a dû sentir une colère immense, une haine, quand il nous a dit à l'instant là, je te détruirai avec l'argent, avec les enfants. Et oui, ça arrive souvent. Et en psychothérapie, en tout cas moi je le vois dans mon cabinet, nous essayons précisément de faire en sorte que cette destruction ne soit pas immédiatement mise en marche. Et dans les thérapies familiales aussi, on arrive à vraiment de beaux succès. Mais voilà, il faut encore que les gens aient envie d'aller consulter.
Oui, sois d'accord.
Ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a toute cette haine encore, toute cette hargne et toute cette souffrance, parce que vous voyez...
Ce qui est certain, Patrick Estrade, c'est que, quoi qu'il arrive, les hommes ou les femmes qui agissent comme cela, et qui prennent les enfants un petit peu comme otage dans ce type d'histoire, un jour ou l'autre, puisque on parle d'enfants qui sont en pleine construction, un jour ou l'autre, à mon avis, hein, ils le paient, parce que ne pas voir comme Marc son fils pendant 19 ans ou sa fille pendant 17 ans, un jour, ses enfants auront envie de savoir ce qui est devenu leur père. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, Marc. Je vous remercie d'avoir partagé votre histoire cet après-midi sur Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Philippe. Le divorce de ses parents, quand il avait 9 ans, a conditionné toute sa vie.
Europe 1. Comment faire pour que son divorce ne se termine pas en guerre, sans merci? Est-ce que vous y êtes arrivé ou au contraire, ça a été une épreuve? Vous nous le dites au 39-21.
Le jour où les adultes comprendront que c'est à nous de garder l'appartement et à eux de venir une semaine sur deux, je vais te dire, l'humanité aura fait un grand pas.
Demain,
c'est les vacances. On a 15 jours pour les faire divorcer.
Ouais, les parents qui viennent une semaine sur deux. Génial, Mes parents divorcent de Patrick Braudé, film culte de 91. Alors génial, sans doute pas. Hein. Mais est-ce que vous jugez votre divorce comme un divorce réussi? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Philippe. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1, Philippe. Alors,
oui,
comme je l'annonçais avant ce court instant, Le divorce de vos parents a pesé sur votre vie jusqu'à aujourd'hui. Racontez-moi, vous aviez 9 ans, à l'époque c'était très tabou le divorce. Vous, oui, du haut de vos petits 9 ans, vous l'avez vécu comment ce divorce ?
Alors je l'ai vécu très mal finalement. En fait, comme vous le dites, j'avais 9 ans, hein, nous habitions un petit village.
Oui.
Et donc évidemment tout le monde apprenait tout sur tout le monde. Et donc, à l'époque, le divorce était un sujet tabou et on avait un peu de honte.
C'était en quelle année que vos parents ont divorcé ?
C'était dans les années 60, d'accord. Donc 67-68. Mm-hmm.
Et, voilà. Et donc, vous évoquez le petit village où tout le monde sait tout sur tout le monde. Ça a pesé sur vous, même enfant ?
Oui, parce qu'inévitablement, dans la cour de récréation, ça... On en parlait, voilà, nos deux familles habitaient le même village, oui. Donc forcément, voilà, ça s'est vite repris. Et donc, comme la séparation s'est faite un peu dans la douleur, hein, la souffrance, eh bien, inévitablement, les commentaires allaient bon train.
Mmh. Alors, on évoquait avec Marc, et puis avec Marc Estrade, on évoquait ces enfants qui sont mis au cœur de ce divorce. Et je crois que vos parents, hein, vous ont donné ce rôle de messager dans lequel vous alliez de l'un à l'autre. Quelle était votre mission, justement ?
En fait, mon père avait un droit de garde, un droit de visite, pardon.
Oui.
Donc, il venait me chercher à week-end sur deux.
Mmh.
Et donc, chaque fois que je revenais de week-end, maman me demandait de ses nouvelles.
Mmh.
Et donc, voilà, je jouais le rôle de messager, comme cela. Donc, je donnais des nouvelles de papa à maman, et puis et l'inverse également. Et lorsqu'il y avait un accord à prendre pour les vacances, par exemple, eh bien, je jouais également le rôle de messager.
Bon, mais on est dans, pour nous aujourd'hui, qui écoutons tout cela, dans des pratiques normales. Là où cela a impacté votre vie vraiment, en fait, Philippe, expliquez-moi où ça a eu un impact sur vos fondations et votre vie d'aujourd'hui, parce que que vous organisez les vacances à travers vous, bon, c'était ça restait somme toute léger, mais en quoi cela a impacté votre vie ?
Ben, d'abord parce que le divorce est mal passé, donc forcément, quand les parents sont en désaccord, qu'il y a des disputes, etc., ben, ça marque un enfant inévitablement.
Mmh.
Ensuite, vous avez les deux conjoints qui refont leur vie. Hein. Et donc, vous, enfant, vous êtes obligé de faire avec.
Hein. Oui.
On ne vous demande pas nécessairement votre avis. Hein. Lorsque, par exemple, pour la Saint-Nicolas, nous, on a la Saint-Nicolas en Belgique, mais vous avez la Noël également, la maman va trouver... son ex-conjoint pour essayer de trouver un accord pour les cadeaux, etc., et que les deux conjoints ne s'entendent pas, eh bien, vous commencez à culpabiliser et vous vous dites que c'est de votre faute tout cela.
Ouais. Voyez-vous. Vous avez aujourd'hui un fils de 21 ans, je crois savoir que vous vous êtes fait la promesse de ne jamais divorcer pour lui.
Absolument, parce que ça m'a fait beaucoup trop de mal. En plus, ça a une répercussion au niveau de mes relations avec les autres. J'étais quelqu'un de très introverti, de très timide.
Ouais.
J'étais très méfiant. Pourquoi ? Parce que quelque part, je m'étais senti trompé, principalement par mon père.
Ça vous a abîmé, cette histoire, hein ?
Oui, bien sûr. Et c'est parce que, il y a plus ou moins 5 ans, j'ai entrepris des formations en développement personnel, que ça m'a permis de dépasser certaines croyances et d'évoluer à ce niveau-là. Mais pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup de difficultés.
Ouais. En tout cas, aujourd'hui, vous m'avez dit que ça allait beaucoup mieux depuis que vous avez entamé ces séances de développement personnel. Et c'est déjà ça de gagné, j'ai envie de vous dire, Philippe. Saluez la Belgique pour nous, Philippe. Hein. Je salue la Belgique au passage, qui nous écoute tous les jours. Je sais que vous êtes très présents à nous écouter, vous les Belges. Et merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Dans quelques instants, nous accueillerons Jacques, qui a eu un divorce très, très difficile. Mais voilà, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux.
Europe 1. Vous nous racontez cet après-midi comment s'est passé votre divorce, un divorce à l'amiable, l'entente qui perdure ou un déchirement, on vous écoute au 39-21. Vous ne vous aimez plus, vous avez divorcé, ce divorce, comme le mariage, peut être réussi. Est-ce que c'est votre cas? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Jacques sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jacques, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jacques?
Alors, j'ai 54 ans et j'appelle de Médieu dans le Rhône.
D'accord. Alors Jacques, on a entendu depuis le début de cette émission pas mal de cas de séparation, en tout cas de divorce plutôt, puisqu'il ne faut pas confondre séparation et divorce. Et le divorce pèse beaucoup plus lourdement, visiblement, sur les consciences. Vous, au début, vous parlez d'un divorce vraiment très, très difficile. Et puis aujourd'hui, tout va bien avec votre ex-femme, jusqu'à partir en vacances avec le conjoint de votre femme, que vous connaissez très bien et qui est devenu un ami. C'est quoi la recette pour que tout ça se passe bien aujourd'hui?
Eh bien, c'est des parents, je pense, intelligents quand on a des enfants.
Oui.
Donc, au début, c'était dur parce que je suis parti avec une autre femme. J'ai eu un autre enfant entre-temps.
Oui.
Mais mon ex-femme a toujours considéré mon enfant que j'ai eu comme la sœur de ma première fille que j'avais avec elle.
Mmh. C'était un peu le cas en même temps.
Voilà, voilà. Mais donc, c'était une relation où elle avait son cadeau de Noël, son cadeau de naissance.
Oui.
Sans qu'on se parle beaucoup, qu'on ait une bonne relation.
Oui.
Et puis, avec le temps, je me suis reséparé de mon ami.
Oui.
Et là, la relation a évolué et ça a commencé à évoluer pour les 18 ans de mon fils. On a fêté son anniversaire tous ensemble avec son ami, sa famille, la mienne. Et là, on a commencé à se reparler, à avoir un contact qu'on avait pas réellement.
Et est-ce que le fait qu'aujourd'hui vous soyez amis avec le conjoint de votre ex-femme renforce terriblement les liens et vous fait penser que finalement la famille est recomposée
Oui, c'est exactement ça. On a un peu une famille recomposée parce que de chacun de notre côté, on n'a pas réellement de famille. Moi, j'en ai plus, elle n'en a plus réellement. Donc, ça fait, on est un peu une grande famille et on part en vacances à l'étranger pendant 15 jours. Toujours ensemble avec nos enfants,
ouais.
Même les fêtes de Noël, les anniversaires, quoi, tout se fait tous ensemble. Et je trouve ça juste génial. Après, ce n'est pas évident pour tout le monde que, quand il y a des pièces rapportées.
Ouais.
Mais je trouve que c'est un truc qui est génial et tout ça, c'est refait. Quoi.
Bah, je, vais vous faire souvent. Je vais vous faire une confidence, Jacques, c'est que moi, je vis exactement la même chose et qu'aujourd'hui, l'ex-mari de ma femme, eh bien, c'était devenu un ami, qu'à Noël, aux anniversaires, tout ça, nous sommes une famille recomposée et c'est sans doute la meilleure manière de rendre heureux nos enfants, mais sans doute la meilleure, la plus intelligente de se comporter. Merci, en tout cas, pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Merci aussi à Marie, à Patrick Estrade, merci à Marc et à Philippe de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle pour réussir un divorce. Toute séparation est difficile et il faut parfois se faire violence et vraiment prendre sur soi pour éviter que le divorce ne s'envenime en essayant de ne pas rester campé sur ses positions, en écoutant l'autre, ses enfants. Il est possible d'apaiser un divorce difficile, toutefois en passant quand même, comme le disait tout à l'heure Patrick Estrade, par la case « je règle mes comptes », mais à la fin, ça fait du bien et on se retrouve, on s'est dit les choses et ça va mieux. Et comme souvent dans ce genre de situation, il faut du temps pour guérir les blessures. Alors, pour tous ceux qui sont dans ce cas actuellement, prenez-le ce temps et puis les choses s'éclairciront sans doute. On peut continuer à en parler un peu partout de cette histoire.
Et notamment sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, vous n'hésitez pas à échanger entre vous sur Instagram Olivier Delacroix officiel. Et puis si vous le souhaitez, Sophie Peters vous écoute le soir, la libre antenne d'Europe 1.
Bien sûr, on continue.
Oui, de 22h30 à 1h du matin. Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de ce fléau qu'est le racisme. Comment le combattre? La tolérance peut-elle servir de rempart? L'émission sera en partenariat avec le film Green Book de Peter Farrelly. Alors, si vous êtes victime de racisme, si un membre de votre entourage est raciste, si vous militez au quotidien contre le racisme, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Le film sort demain, il s'appelle Green Book, et paraît-il passionnant. Donc, on en parle demain à partir de 15h. J'ai été, comme chaque jour, ma chère Ambine, ravi de passer cette heure avec vous.